Ce que je vous propose aujourd'hui, ce matin, pour ma part, c'est de retracer le parcours de réception de l'œuvre de Bello avec comme fil conducteur les questions suivantes. Comment et quand Bello est-il devenu un écrivain? D'abord pour lui-même et ensuite pour les autres. Donc les autres, ses lecteurs, l'Institution littéraire québécoise. Selon quels critères a-t-il évalué son propre travail? Et ensuite, comment ce travail a-t-il été appréhendé? Avec quelle régie de lecture l'a-t-on abordé? Bien sûr, toutes les lectures ne sont pas accessibles. Mon étude se borne donc à la réception écrite, que d'ailleurs je ne pourrais vraiment pas présenter ici de manière exhaustive. Hein, vous comprenez que c'est impossible. Mais donc, à partir de ces lectures, j'aimerais montrer comment les critères d'interprétation de l'essai que Bello a lui-même mis en lumière, sont devenus incontournables dans la lecture de son œuvre par la suite, jusqu'à ce que le réflexe de lire son œuvre comme littéraire devienne tout naturel. Donc, ce panorama va se restreindre à trois ouvrages, le romancier fictif et les deux recueils d'essais, que sont « Y a-t-il un intellectuel dans la salle » et « Surprendre les voix ». Et donc, l'étude de la réception de Notre Rabelais est totalement exclue, ça reste totalement à faire. Donc, si on prend les choses du début, on peut voir que l'entrée d'André Bello dans l'institution littéraire précède de plusieurs années sa consécration en tant qu'écrivain dans cette même institution. Il fait partie de l'équipe de Liberté, donc depuis le début, il écrit à Liberté depuis le début, et il apparaît dès 1963 au répertoire des écrits du Canada français pour ses nouvelles. Mais la totalité des articles et des réactions écrites qui portent sur son travail d'écriture est postérieure à la publication du romancier fictif en 1980. C'est intéressant de le noter, je pense, parce que plusieurs des essais de Bello qui jouissent aujourd'hui d'une reconnaissance sur le plan littéraire, je pense par exemple à La feuille de tremble, publiée en 1974, Guadeloupe ambiguë en 1977, L'effet de Rome au printemps 80, sont donc des publications antérieures au romancier fictif. Donc, ça nous rappelle qu'on n'échappe pas à la règle habituelle, donc sans publication sous forme de livre, que ce soit un essai d'un seul tenant ou un recueil, l'œuvre n'est pas commentée par écrit et donc perd les retombées en termes de légitimation éventuellement littéraire qui en découlerait. Personne, pas même Bello lui-même, ne s'est donc prononcé par écrit sur le statut littéraire de ses essais avant 1980. En effet, pour l'auteur lui-même, il faut des années avant que la nature esthétique de son travail lui apparaisse comme déterminante. Ce n'est encore une fois qu'après 1980 qu'André Bello commence à se présenter comme un écrivain, même s'il écrit, je le rappelle, et publie depuis des années, comme vous le savez. Par exemple, en mai 1978, en entrevue avec Wilfrid Lemoine, Bello concevait encore sa vocation comme étant celle de professeur de lettres. C'est alors la désignation principale qu'il utilise et défend. Donc, je cite Bello. « Je pense que je suis un bon professeur. Enfin, je le confie à vous. Toute ma vie est unifiée autour de ça. Je suis professeur de lettres. Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un critique. Je suis un professeur de lettres. Ce n'est pas la même chose. » Wilfrid Lemoine, vous dites « Je ne suis pas un écrivain. Vous écrivez pourtant. » Bello, « J'écris. Mais fondamentalement, je suis professeur de lettres. » La hiérarchie des différentes fonctions qu'il occupe va s'inverser dans les années qui suivent. Je prends pour exemple un entretien radiophonique accordé par Bello à Marcel Bélanger en 81, donc celui qui est retranscrit sous le titre « La passion de l'essai ». Bello consacre alors l'entrevue à la description de son activité d'essayiste et il met l'accent sur la légitimité de son statut d'écrivain. Je cite Bello. « Les écrivains travaillent avec le langage de leur société. C'est pourquoi je suis convaincu que si je n'étais pas un intellectuel vivant dans le milieu des intellectuels, car je gagne ma vie en tant que professeur d'université. Si mon environnement langagier n'était pas un environnement d'idées, il est fort probable que je ne serais pas un essayiste. » On peut remarquer ici que Bello présente désormais son emploi de professeur comme un accompagnement à son activité d'écrivain, et non plus comme une activité qui le définit fondamentalement. Ce qui semble le définir avant tout, même si on se rappelle qu'il aime mieux vivre que se définir, c'est le fait d'être un écrivain. C'est le milieu dans lequel il vit qui se sera chargé de faire de lui un essayiste plutôt qu'un romancier ou qu'un poète. Cette vision de l'écriture témoigne de la perspective particulière de Bello quant à la question du caractère littéraire de l'essai. En effet, sa réflexion débouche sur une réévaluation des critères traditionnels de littéralité. Puisque, selon Bello, toute écriture est une réécriture, pour reprendre les mots de Barthes, encore une fois, il en découle que le thème de l'essai n'est pas fondamentalement différent de celui du roman ou de la poésie. De ce point de vue, donc, il n'y a pas de différence entre le littéraire et le métalittéraire, mais Bello conserve, malgré tout, la distinction entre les types d'énonciation que sont le langage sujet et le langage objet. Le critique n'est donc un créateur que s'il utilise le langage objet, hein, s'il assume la fonction esthétique du langage, qu'on peut associer à ce qu'on appelle parfois aussi l'intransitivité du langage littéraire. L'écriture en italique, hein, l'écriture selon le sens que lui a donné Barthes, encore une fois, est donc, pour Bello, la véritable marque du littéraire et elle peut être pratiquée dans tous les genres du discours. Bello insiste également beaucoup sur l'idée que l'écriture de l'essai se fonde sur la fiction, donc on en a déjà parlé, je vais passer rapidement. Dans Approche et situation de l'essai québécois, il écrit ceci. « Ce jeu de l'essayiste, posé comme signalant sa position dans le monde des signes de la culture, ne doit pas être confondu, est-il besoin de le dire, avec un jeu hors texte. Il est lui-même un produit du langage, à l'instar du narrateur d'un roman. Mais tandis que dans le roman, le jeu héros se situe par rapport aux événements, aux personnes, à la structure, à l'évolution d'une société fictive, le jeu de l'essai s'éprouve dans un espace et un temps tout aussi fictifs, composé d'objets culturels ou plutôt de signes culturels. » Dans l'ensemble, c'est cette conception de l'essai, qui est d'ailleurs partagée dans les grandes lignes par d'autres théoriciens comme François Ricard, hein, son article intitulé « L'essai » paru à Études françaises en 1977, ou Robert Vigneault, hein, dans l'écriture de l'essai, publié en 1994. Donc, c'est cette conception-là qui va marquer la réception de l'œuvre de Bello, entre autres grâce à l'influence déterminante d'un de ses essais les plus connus, Petit essayistique, et aussi grâce au travail d'édition effectué pour Surprendre les voix. En 1980, donc, le cheminement de la réflexion d'André Bello l'amène à se concevoir écrivain. Pourtant, du côté de la réception, le livre qu'il va publier cette année-là, le romancier fictif, est d'abord lu et évalué par rapport à des critères qui relèvent du domaine de la recherche universitaire. Dans les recensions et articles qui paraissent à Voix et Images, sous la plume de Pierre Neveu, au Devoir par Noël Audet, à Lettres québécoises par Jacques Michon et à Relations par Jean-Louis Major, ce sont les idées, la méthode, la rigueur, la clairvoyance intellectuelle de Bello qui sont relevées, qui sont discutées, alors que des termes comme fictionnalité, subjectivité, narrativité, style, écriture n'apparaissent jamais. La publication du recueil « Y a-t-il un intellectuel dans la salle » en 1984 va provoquer un premier changement significatif quant au type de lecture qu'on accorde à l'œuvre de Bello. Évidemment, Bello lui-même y est pour beaucoup. La nouvelle niche qu'il a contribué à créer et à légitimer dans le champ littéraire, lui sied à merveille. Hein. Donc, on a dit que c'était beaucoup une poétique d'auteur que celle de petite essayistique. D'autres facteurs vont entrer aussi en jeu, comme donc, le fait de publier un recueil, l'usage du péritexte, du paratexte, l'emplacement judicieux de petite essayistique comme liminaire. Donc, tous ces facteurs favorisent une lecture dont l'horizon d'attente comprend une certaine interprétation du genre de l'essai comme œuvre littéraire qui doit être évaluée sur le plan esthétique. D'abord, la préface de René Lapierre présente la fonction esthétique de l'écriture de l'essai comme fondamentale. Il associe de ce point de vue l'essai à la littérature par diction, au même titre que la poésie. Je cite Lapierre. « L'essayiste cherche sans cesse dans les fragments qui l'entourent, dans ce fragment qu'il est, le dessin des significations, la figure de ce qu'il y a, comme disent les Anglais, dans un mot. » Rien qui ne soit plus près du poème, alors. Nulle poétique qui ne reçoive tant du langage, qui ne demande tant au texte, qui n'exige tant du texte, avec une majuscule. Fin de la citation. Au Devoir et à Voix et Images, l'attention est davantage portée sur le travail de mise en recueil opéré pour « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?» et sur l'influence de ce travail sur la lecture des textes. Donc, François Hébert, au Devoir, indique que les articles de Bello, hein, porte votre attention sur le terme qui est employé. Les articles de Bello, donc, gagnent à être rassemblés. À Voix et Images, Robert Major, après avoir précisé que l'essai reste, je cite, « un genre dérivé, un art transitoire, réactif, dépendant et secondaire », fin de la citation, souligne à son tour la transformation permise par cette première mise en recueil qui permettrait de mieux comprendre les idées exprimées. De son côté, Robert Vigneault, dans un article paru à Lettres québécoises, voit plutôt en Bello, je cite encore, un homme d'écriture jusqu'au bout des ongles. Fin de la citation, qui a réussi à rassembler des valeurs opposées, écriture et théorie, dans une seule expérience. L'article va d'ailleurs être repris dans le recueil de Vigneault, publié en 1994, l'écriture de l'essai, et donc on peut penser que la lecture de Bello a fortement influencé l'idée même de ce que doit être un essai pour Vigneault. Cependant, à l'époque de la publication du premier recueil, malgré le parti pris de l'auteur et une réception qui est quand même plus diversifiée, l'évaluation esthétique ne semble pas s'imposer d'une manière dominante au lectorat. Les mots « essai », « essayiste », « écriture » apparaissent de plus en plus souvent dans les recensions et elles côtoient de manière presque paritaire celles de « théoricien », « professeur » et « article ». La mort prématurée de Bello en 1986 et surtout la publication posthume de son second recueil, « Surprendre les voix », vont vraiment changer la donne. C'est cette conjecture de réception qui va être déterminante dans l'imposition du diagnostic de littérarité de son œuvre. Donc, dès 1986, Gilles Marcotte, au Devoir, se prononce nettement en la faveur d'un tel statut. Il souligne que Bello, je cite, « avait le don et l'amour de la langue orale et écrite, point, un écrivain, point. » L'article que Laurent Maillot consacre à André Bello la même année dans l'étude française reprend sensiblement la même formule, alors que Maillot, après avoir longuement décliné le curriculum de Bello, ajoute en toute fin de paragraphe « car cet excellent professeur était un écrivain. » Ce type de discours se retrouve d'ailleurs partout dans le numéro « Hommage de liberté » paru en février 1987. Je cite par exemple Robert Melançon. « André Bello était un écrivain, l'un de ceux qui compteront. » Fin de la citation. Encore une fois, l'idée semble bien être de défendre un point de vue contre une idée admise, contre une autre conception de l'œuvre qui paraît alors peut-être plus naturelle. Cette tension est même directement mise en scène dans l'article de Melançon. Je cite encore, « Mais, dira-t-on, l'amitié vous égare. Ce ne sont que des notes de lecture, de brefs articles, des textes de circonstances, des travaux universitaires. Il était professeur, pas écrivain. » Fin de la citation. Donc, pour répondre à ceux qui, selon les mots de Melançon, ressortiraient une objection aussi éculée. Melançon écrit, je cite encore, « Bello a laissé des textes ambigus dont les simples ne savent que faire. » Bello est donc, de ce point de vue, associé au champ de production restreinte, pour reprendre un vocabulaire bourdieusien. C'est une manière de le valoriser, bien sûr, sur le plan littéraire, parce que la valeur de ses œuvres est alors reconnaissable uniquement par le lecteur qui est considéré comme bien informé, par le lecteur qui a une bonne lecture, qui s'oppose à des mauvaises lectures de l'œuvre. Pourtant, cette manière de souligner l'idée que voulant que Bello soit un écrivain est vraiment révélatrice de la situation toujours précaire où se trouvent les essayistes sur le plan de la littérarité. Il s'agit bien encore d'un discours qui relève de ce que Genette appelle la littérarité conditionnelle, qui laisse le statut littéraire des œuvres dépendre de l'appréciation personnelle des lecteurs et bien sûr de leur position dans le champ littéraire, la position de ces mêmes lecteurs. Sans qu'on reconnaisse que le simple fait d'avoir écrit des essais fasse automatiquement de Bello un écrivain, comme on le fait pour les autres genres consacrés. Donc, malgré l'affirmation catégorique de Bello, l'idée selon laquelle le genre de l'essai se situe dans une zone limitrophe du vrai domaine de la littérature n'est pas si désuète, même à la parution de Surprendre les voix. Il ne va pas encore de soi qu'un essayiste est un écrivain, puisqu'il faut l'affirmer avec une volonté explicite de valorisation, et non pas seulement de catégorisation. Prenons en exemple l'article consacré à Surprendre les voix au Devoir sous la plume de Jean Etiblet. Celui-ci présente le recueil comme l'œuvre d'un théoricien et critique, sans que ses appellations soient conçues comme pouvant être synonymes de celles d'écrivain. On peut le remarquer lorsqu'il se désole de ce que, je cite, « un homme d'une telle sensibilité, d'un tel courage dans le monde des idées, se réfugie dans la théorie littéraire. » Bello était l'homme à écrire un grand livre sur ce dieu des écrivains qui s'appelle Jean de La Fontaine, mais il a fallu qu'il se laisse prendre aux sornettes de la mode. donc, on voit donc que la fameuse distinction quétaine entre créateur et critique n'est pas vraiment abandonnée lorsque paraît Surprendre les voix. Donc, manifestement, Jean Thiblet n'a pas peur d'être désuet et quétaine. De ce point de vue, la condition pour que l'œuvre soit lue et reconnue comme littéraire, c'est que des membres parmi les plus influents de l'institution parviennent à montrer que c'est la meilleure lecture de l'œuvre, c'est la lecture naturelle que l'œuvre appelle. Plusieurs articles vont réaliser ce travail par la suite, en s'attardant aux essais de Bellot en lui-même et donc en priorisant la grille de lecture de l'essai que Bellot a créé. À l'hiver 88, Ginette Michaud propose à Études françaises la première analyse spécifiquement littéraire d'un essai de Bellot, soit de La feuille de trente. Dans son article intitulé « On ne meurt pas de mourir, réflexion sur le sujet nation », elle réfléchit au rapport entre l'individu écrivain et sa nation à partir des œuvres de James Joyce et d'André Bellot. Donc, plutôt que de passer par une déclaration solennelle du type « car oui, Bellot était bien un écrivain », la légitimation de l'œuvre qui s'opère chez Michaud tire son efficacité du fait d'aborder directement l'œuvre de l'essayiste dans le texte, sans passer par l'homme ni par le professeur. L'analyse de l'essai « La feuille de tremble », dans ce que Michaud nomme « ses figures », et le parallèle avec Joyce, bien sûr, favorise une lecture littéraire de l'œuvre, qui est encore peu pratiquée jusque-là. Parce que, encore en 88, ce type d'approche de l'œuvre de Bellot était exceptionnel. Il va devenir plus fréquent par la suite, à mesure qu'un consensus se forge autour de la valeur esthétique de Surprendre les voix. En voici quelques exemples. Dans la notice qui accompagne Surprendre les voix dans le DOLC, D-O-L-Q, je ne sais pas comment vous le dites d'habitude, Robert Dion souligne le statut d'essayiste de l'auteur qui domine et englobe à présent toutes les autres fonctions de Bellot. Je cite M. Dion. Bactinien pratiquant, admirateur du jeune Lukács, Bellot se définit au total et avant tout comme un essayiste au plein sens du terme, c'est-à-dire un artiste de la narrativité des idées, un habitant de la sémiosphère dont le travail porte essentiellement sur les signes de la culture. Fin de la citation. Donc, la définition d'essayiste proposée par Bellot lui est réattribuée et elle devient même la façon de définir l'essayiste au plein sens du terme, donc le véritable essayiste. C'est également à partir des idées de Bellot lui-même sur le genre de l'essai que son œuvre est abordée dans les trois mémoires de maîtrise à l'exclusion du mien qui la prennent pour sujet. Par exemple, en 1989, Gérald Cousineau propose l'analyse des trois œuvres qui sont publiées de Bellot à cette époque, c'est-à-dire les mêmes que, dont je parle avec vous aujourd'hui, en tentant de les concevoir comme des fictions idéales, hein, selon la proposition même de Bellot. Il souhaite, je cite, « s'attacher davantage à la narrativité essayistique qu'aux idées véhiculées par les textes », fin de la citation, et il cherche à en faire ressortir, je cite, « l'équivalence du dire et du dit », fin de la citation. De même, si Annie Perron, dans l'introduction de son mémoire, rappelle les raisons qui pourraient inciter certains lecteurs à y voir l'œuvre d'un chercheur plutôt que celle d'un écrivain, c'est encore une fois pour mieux les réfuter. Elle le fait d'ailleurs à la manière d'André Bellot, en se proposant d'abandonner, je cite, « les vieux réflexes issus de la tradition » qui l'empêcheraient d'être perçu comme littéraire. En 1991, Benoît Mélenchon publie à Études françaises « La reine et la guidoune », une analyse du rapport au langage développée par Bellot dans son travail d'écrivain. Il y défend la thèse selon laquelle c'est la maîtrise du jeu sur les registres de langue qui fait la valeur littéraire de l'œuvre de Bellot, car elle permet de démontrer d'une manière formelle ce qui est avancé théoriquement. Je cite Mélenchon qui résume « C'est par un travail sûr et dans la langue que l'essayiste le devient, que l'essai est une forme littéraire. » François Dumont va adopter la même approche. résolument tourné donc vers l'écriture elle-même, hein, qui caractérise Bellot. Je ne me trompe pas hein, quand non, je non. vous dis vos thèses. dans son article qui est intitulé « La littérature comme point de vue », entre autres, qui est paru à Itinéraire et Contact des cultures. En 1999, à l'occasion de la réédition du romancier fictif, François signe également une préface qui montre combien la tendance dominante dans la réception de l'œuvre s'est renversée au fil du temps. Alors qu'à sa première publication, cette œuvre était de prime abord et malgré son sous-titre, considérée comme relevant du travail universitaire avant tout, cette œuvre, donc la préface de Dumont, indique que la donne depuis a bien changé. Il rappelle que Bellot est surtout connu comme essayiste et qu'il a pratiqué aussi la critique d'une manière plus systématique. Le lecteur est invité à remarquer la densité caractéristique de l'écriture, la subjectivité, l'ironie, bref, toutes les ressources de la littérature qui sont habituelles à Bellot. Le romancier fictif permettrait donc, selon François, de, je cite, « mieux comprendre la littérature tout en la voyant à l'œuvre ». Dans le même ordre d'idées, Anne Comartin, dans « Parcours de l'essai québécois », fait de Bellot le représentant de l'intellectuel québécois après 1980, pour qui l'engagement politique passe de plus en plus par un engagement poétique où ambiguïté, ironie et polysémie sont mises à profit. Donc, chez Benoît Mélenchon, François Dumont, Anne Comartin, les essais de Bellot servent de modèle au mélange inextricable entre pensée et son énonciation, qui caractériserait autant la nouvelle posture de l'intellectuel québécois après 1980 que la nature même de l'écriture essayistique. Donc, l'intellectuel post-1980 est un essayiste, grosso modo. C'est cette lecture de Bellot qui, à ce jour, paraît s'être imposée comme la plus productive et comme la plus légitime. En somme, la réception de l'œuvre de Bellot, qui commence avec la publication du romancier fictif en 1980, passe en une dizaine d'années d'une lecture dominante comme langage-sujet à une lecture dominante comme langage-objet. On peut également remarquer qu'il arrive souvent que la valorisation de l'œuvre sur le plan littéraire passe par la stratégie qu'employait Bellot lui-même, c'est-à-dire relayer à l'arrière-garde le discours qui dévalue l'essai sur le plan littéraire. Donc, la façon dont Bellot, par son double rapport à l'essai, a contribué à modifier les valeurs du champ littéraire québécois en fonction desquelles son œuvre a été elle-même jugée est vraiment frappante. On pourrait même soutenir, en adoptant le point de vue de l'esthétique de la réception proposée par Yauss, que c'est précisément cette force de renouvellement du regard posé sur la littérature qui constitue l'écart esthétique de l'œuvre de Bellot. Cet écart esthétique que présente son œuvre est bel et bien arrivé à transformer notre horizon d'attente. De ce point de vue, il est sans doute l'un des meilleurs arguments en faveur de la littérarité de son œuvre. Malgré tout, bien sûr, la consécration de Bellot en tant qu'écrivain ne rend pas obsolète la lecture de son œuvre comme appartenant au domaine de la recherche universitaire. Ces deux stratégies interprétatives se révèlent productives, vont être exploitées, je pense, aujourd'hui et demain. Et donc, aujourd'hui et demain, nous allons continuer la réception de l'œuvre de Bellot, et donc, il faudra tout refaire. Merci.